Aventure du baron de Münchhausen par Gottfried August Bürger, 1786, traduction de Théophile Gautier fils, 1857.
Chapitre 4. Aventure du baron de Münchhausen dans la guerre contre les Turcs. Certes, il eût été difficile de me faire un cadeau plus agréable que celui-là, dont je me promettais beaucoup de bien pour la prochaine campagne et qui devait me servir à faire mes preuves. Un cheval aussi docile, aussi courageux, aussi ardent, un agneau et un bucéphale tout à la fois, devaient me rappeler les devoirs du soldat et en même temps les faits héroïques accomplis par le jeune Alexandre dans ses fameuses guerres. Le but principal de notre campagne était de rétablir l'honneur des armes russes qui avaient quelque peu été atteintes sur le Prout, du temps du tsar Pierre. Nous y parvînmes après de rudes mais glorieux combats, et grâce au talent du grand général que j'ai nommé plus haut. La modestie interdit aux subalternes de s'attribuer de beaux faits d'armes. La gloire doit en revenir communément au chef, si nul qu'il soit, aux rois et aux reines qui n'ont jamais senti brûler de poudre qu'à l'exercice et n'ont jamais vu manœuvrer d'armée qu'à la parade. Ainsi, je ne revendique pas la moindre part de la gloire que notre armée recueillit dans maint engagement. Nous fîmes tous notre devoir, mot qui, dans la bouche du citoyen, du soldat, de l'honnête homme, a une signification beaucoup plus large que ne se l'imaginent messieurs les buveurs de bière. Comme je commandais alors un corps de hussards, j'eus à exécuter différentes expéditions où l'on s'en remettait entièrement à mon expérience et à mon courage. Pour être juste, cependant, je dois dire ici qu'une grande part de mes succès revient à ces braves compagnons que je conduisais à la victoire. Un jour que nous repoussions une sortie des Turcs sur les murs d'Otjakov, l'avant-garde se trouva chaudement engagée. J'occupais un poste assez avancé. Tout à coup, je vis venir du côté de la ville un parti d'ennemis enveloppé d'un nuage de poussière et qui m'empêchait d'apprécier le nombre et la distance. M'entourer d'un nuage semblable, c'eût été un stratagème vulgaire et cela m'eût en outre fait manquer mon but. Je déployais mes tirailleurs sur les ailes en leur recommandant de faire autant de poussière qu'ils pourraient. Quant à moi, je me dirigeais droit sur l'ennemi, afin de savoir au juste ce qui en était. Je l'atteignis. Il résista d'abord et tint bon jusqu'au moment où mes tirailleurs vinrent jeter le désordre dans ses rangs. Nous le dispersâmes complètement, en fîmes un grand carnage, et le refoulâmes non seulement dans la place, mais encore au-delà, de façon qu'il s'enfuit par la porte opposée, résultat que nous n'avions pas osé espérer. Comme mon lituanien allait extrêmement vite, je me trouvais le premier sur le dos des fuyards et voyant que l'ennemi courait si bien vers l'autre issue de la ville, je jugeais bon de m'arrêter sur la place du marché et de faire sonner le rassemblement. Mais figurez-vous mon étonnement, messieurs, en ne voyant autour de moi ni trompette, ni aucun de mes hussards. « Que sont-ils devenus ? » me dis-je. « Se seraient-ils répandus dans les rues ?» Ils ne pouvaient cependant pas être bien loin et ne devaient pas tarder à me rejoindre. En attendant, je menais mon lituanien à la fontaine qui occupait le milieu de la place pour l'abreuver. Il se mit alors à boire d'une façon inconcevable, sans que cela parût le désaltérer. J'eus bientôt l'explication de ce phénomène singulier, car en me retournant pour regarder si mes gens n'arrivaient pas, qu'imaginez-vous que je vis, messieurs ? Tout l'arrière-train de mon cheval était absent et coupé net. L'eau s'écoulait par derrière à mesure qu'elle entrait par devant, sans que la bête en conservât rien. Comment cela était-il arrivé ? Je ne pouvais m'en rendre compte, lorsqu'enfin mon hussard arriva du côté opposé à celui par lequel j'étais venu, et à travers un torrent de cordiales félicitations et d'énergiques jurons, me rapporta ce qui suit. Tandis que je m'étais jeté pêle-mêle au milieu des fuyards, on avait brusquement laissé retomber la herse de la porte qui avait tranché net l'arrière-train de mon cheval. Cette seconde partie de ma bête était d'abord restée au milieu des ennemis, et y avait exercé de terribles ravages. Puis, ne pouvant pénétrer dans la ville, elle s'était dirigée vers un pré voisin où je la retrouverais sans aucun doute. Je tournai bride aussitôt, et l'avant de mon cheval me mena au grand galop vers la prairie. À ma grande joie, j'y retrouvais en effet l'autre moitié qui se livrait aux évolutions les plus ingénieuses et passait gaiement le temps avec les juments qui erraient sur la pelouse. Étant dès lors bien assuré que les deux parties de mon cheval étaient vivantes, j'envoyais chercher notre vétérinaire. Sans perdre de temps, il les rajusta au moyen de rameaux de laurier qui se trouvaient là et la blessure guérit, heureusement. Il advint alors quelque chose qui ne pouvait arriver qu'à un animal aussi supérieur. Les branches prirent racine dans son corps, poussèrent et formèrent autour de moi comme un berceau à l'ombre duquel j'accomplis plus d'une action d'éclat. Je veux vous raconter encore ici un petit désagrément qui résulta de cette brillante affaire. J'avais si vigoureusement, si longtemps et si impitoyablement sabré l'ennemi que mon bras en avait conservé le mouvement, alors que les Turcs avaient depuis longtemps disparu. Dans la crainte de me blesser et surtout de blesser les miens lorsqu'ils m'approchaient, je me vis obligé de porter pendant 8 jours mon bras en écharpe, comme si j'eusse été amputé. Lorsqu'un homme monte un cheval tel que mon lituanien, vous pouvez bien, messieurs, le croire capable d'exécuter un autre trait qui paraît, au premier abord, tenir du fabuleux. Nous faisions le siège d'une ville dont j'ai oublié le nom, et il était de la plus haute importance pour le feltmaréchal de savoir ce qui se passait dans la place. Il paraissait impossible d'y pénétrer car il eût fallu se faire jour à travers les avant-postes, les grands gardes et les ouvrages avancés. Personne n'osait se charger d'une pareille entreprise. Un peu trop confiant peut-être dans mon courage et emporté par mon zèle, j'allais me placer près d'un de nos gros canons et au moment où le coup partait, je m'élançais sur le boulet dans le but de pénétrer par ce moyen dans la ville. Mais lorsque je fus à moitié route, la réflexion me vint. Pensais-je. Allez, c'est bien, mais comment revenir? Que va-t-il arriver une fois dans la place? On te traitera en espion et on te pendra au premier arbre. Ce n'est pas une fin digne du Münchhausen. Ayant fait cette réflexion, suivie de plusieurs autres du même genre, j'aperçus un boulet dirigé de la forteresse contre notre camp qui passait à quelques pas de moi. Je sautai dessus et je revins au milieu des miens sans avoir, il est vrai, accompli mon projet, mais du moins entièrement sain et sauf. Si j'étais leste et alerte à la voltige, mon brave cheval ne l'était pas moins. Haie ni fossé, rien ne l'arrêtait, il allait toujours droit devant lui. Un jour, un lièvre que je poursuivais coupa la grande route. En ce moment même, une voiture où se trouvaient deux belles dames vint me séparer du gibier. Mon cheval passa si rapidement et si légèrement à travers la voiture, dont les glaces étaient baissées, que j'eus à peine le temps de retirer mon chapeau et de prier ces dames de m'excuser de la liberté grande. Une autre fois, je voulus sauter une mare, et lorsque je me trouvais au milieu, je m'aperçus qu'elle était plus grande que je ne me l'étais figurée d'abord. Je tournai aussitôt bride au milieu de mon élan, et je revins sur le bord que je venais de quitter pour reprendre plus de champ. Cette fois encore, je m'y pris mal et tombai dans la mare jusqu'au cou. J'aurais péri infailliblement si par la force de mon propre bras, je m'étais enlevé par ma propre queue, moi et mon cheval, que je serrais fortement entre les genoux.